One, two, three, ho!
J'ai cru que t'allais dire non, j'ai pas besoin, je suis suffisamment baraqué, c'est bon.
Non, mais pour venir chez toi, je pense que je peux le faire, mais ça devient un peu fatigant.
Ouais, moi j'y arrive à venir chez moi parce que moi je suis baraqué. Ouais.
Bah, on voit, t'as vu les cuissons que tu as.
Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, l'émission qui donne envie de pédaler, l'émission qui sauve la planète. Et aujourd'hui, on a encore un nouveau chroniqueur, c'est bien, l'équipe c'est top, c'est super. Cycle enthousiaste, comment ça va?
Salut Eric, oui, écoute, ça va très bien. Je suis très fier de pouvoir participer à Pause Vélo, émission que j'écoute déjà depuis plus d'une année et qui m'a donné envie de contribuer à cette noble cause.
Bon, en fait, l'émission est ouverte à tout le monde. On peut même dire un truc, tiens, si vous êtes quelque part à l'autre bout de la France, que vous êtes une équipe bien motivé, vous dites, tiens, on ferait bien un épisode de Pause Vélo. Ben en fait, l'émission peut être faite par d'autres personnes tant qu'on garde l'habillage vidéo, les logos, l'habillage sonore. Ouais, on peut imaginer que n'importe qui puisse animer Pause Vélo.
Et c'est le miracle de la technique parce que cette émission, il y a peut-être 20 ans en arrière, elle serait tellement plus difficile à réaliser, ouais. Alors que maintenant, on a tous dans la poche ce qui permet d'enregistrer une rubrique.
Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé de sympa en vélo cette semaine ou dans les jours qui ont précédé?
Moi, je dirais plutôt qu'est-ce qui est arrivé de pas sympa cette semaine ou ces semaines. C'est la météo. On a presque un automne et c'est pas un printemps. Là, on attend les bons jours. Les beaux jours, ils vont arriver, mais pour l'instant, ça commence à être un peu long.
Alors, dans Pause Vélo, on a parlé de quasiment tous les vélos, toutes les formes, tout, sauf un truc. Et toi, t'as repéré la faille et t'as dit, tiens les gars,
voilà.
Le tandem.
Le tandem, oui. Donc moi aussi, j'ai écouté toutes les émissions. Je me suis dit, tiens, là, il y a un segment qu'on n'a pas expliqué, c'est le tandem.
Un segment, on dirait que c'est une émission commerciale. Écoutez, on va
voir. Oui, non, mais il faut être technique des fois, il faut être précis, c'est important. Si je vous parle du tandem, c'est que j'en possède un. Et pourquoi est-ce que je suis l'heureux possesseur de cet objet? C'est parce que lorsque ma femme et moi avons commencé le vélo ensemble, donc moi j'en faisais avant qu'on se rencontre, elle avait peu pratiqué le vélo dans sa jeunesse. Et du coup, elle n'avait pas une assurance qui lui donnait beaucoup de plaisir. Et lors des deux premières sorties qu'on avait faites avec le beau vélo que j'avais acheté, elle a chuté. Elle avait même chuté une semaine avant notre mariage. Elle s'était légèrement ouvert au doigt, bref, elle paniquait parce que vous comprendrez bien que la future mariée a envie d'être pimpante lors du jour J. Et du coup, je me suis dit, mais ça va être pas possible de continuer de rouler les deux séparés. Et si elle a une appréhension, le but, c'est qu'on ait du plaisir les deux. Et puis là, ben, brillante idée, je me dis, mais pourquoi pas acheter un tandem, Eric?
Eh ben ouais, bonne idée.
J'ai pas réfléchi longtemps, j'ai regardé où est-ce que je pouvais en trouver un. J'en ai trouvé un sur Internet via un vendeur proche de Genève. Et puis, on s'y est mis. Alors... est-ce que c'est difficile? Je te dirais que non. En fait, conduire un tandem, c'est comme conduire un bus comparé à une voiture. Lorsque tu vas t'approcher d'un giratoire, en vélo, si tu serais tout seul, tu oserais peut-être t'enfiler dans le doute parce que tu sais que ça passe. En vélo, en tandem, tu vas peut-être être beaucoup plus prudent, tu vas anticiper ce que tu fais. Par contre, lorsqu'il s'agit de monter sur le vélo, s'arrêter, c'est très très simple. Alors aussi, le gros avantage, là je vais vous lister les avantages, c'est que contrairement à lorsque vous faites du vélo en couple ou à deux, vous devez souvent vous rapprocher pour vous parler, des fois il faut hurler pour qu'on s'entende. Avec le tandem, comme vous êtes vraiment proche l'un de l'autre, vous arriverez tout le temps à vous parler. Le pilote, vous n'aurez pas besoin de vous retourner pour qu'on vous entende, on s'entendra très bien. Donc, lorsque vous êtes ensemble, vous pouvez en permanence échanger sur les beaux paysages que vous traversez. Et ça, c'est vraiment un moment de partage beaucoup plus intense que si on était simplement chacun à pédaler de son côté et à s'attendre. L'autre gros avantage, et là je pense que ça parlera à beaucoup de gens qui font du vélo avec des pratiquants de niveaux différents, c'est que les deux amènent la force qu'ils peuvent dans le vélo, elle est divisée par deux. Donc si vous avez un super sportif avec un débutant, finalement le débutant il pédalera à la mesure de ses moyens, et puis le super sportif aussi, et puis le résultat c'est une vitesse moyenne un peu plus basse pour le super sportif et un peu plus haute pour le débutant.
C'est pas énervant ça pour le super sportif, se dire « Ah oh là là, je serais mieux tout seul quoi !»
Ben, ça dépend, je pense, dans un couple, tu vas faire la pesée d'intérêt à dire, mais est-ce que je préfère rouler vite tout seul ou profiter de le faire avec madame ou monsieur et puis de partager un moment? Ça, c'est très personnel. Maintenant, pour ce qui est du choix du matériel, expérience faite, je vais vous raconter ce que nous, on a choisi, quels sont les points importants. Alors nous, notre choix, il s'était tourné sur un vélo de type VTT, mais VTT rigide. Et puis on l'a adapté, c'est-à-dire que les cintres, donc le guidon, on l'a, comme les VTT sont généralement assez larges, on l'a raccourci. Le vélociste qui peut simplement raccourcir le guidon, c'est un tube, hein, il a ce qu'il faut pour le raccourcir. Comme ça, quand vous êtes sur la route, vous n'avez pas l'impression que vous avez le bras qui va se faire happer par une voiture. Et puis l'autre aspect qui était aussi bien avec un VTT, c'est que vous avez des freins à disque. Et en plus, des freins à disque de VTT, ils sont un peu plus gros. Donc quand il faut freiner, comme vous êtes deux, et ben là, vous avez vraiment de la réponse. Et c'est un des points, je pense, où si vous devez porter votre choix sur un vélo, mettez un peu plus dans le budget pour les freins à disque. Parce que si vous avez des freins à gomme, dans une descente, si vous avez de l'humidité, ça ne va pas répondre tout de suite. Vous avez une distance de freinage qui est plus longue.
Danger.
Danger, franchement. Donc là, franchement, sécurité, vous êtes deux. Prenez les bons composants pour que vous soyez bien bien sûr et puis que vous n'ayez pas un doute. Et puis petite anecdote, j'avais discuté avec le propriétaire d'un tandem qui avait des freins à gomme et dans une grande descente, la gomme en frottant la jante
Elle
avait
a fondu.
tellement, c'est presque ça, elle avait tellement chauffé que le pneu a éclaté.
Non.
Alors je pense que c'est un bon argument qui joue en faveur du frein à disque. Et puis après, le cintre VTT, il a aussi l'avantage que vous avez tout de suite accès aux freins, alors que si vous aviez un cintre de vélo de course, vous devriez d'abord vous remettre avec une position de vitesse pour freiner. Et pour un VTT ou pour un tandem, vous n'avez pas besoin de faire de la vitesse et de la compétition ou de la performance. Donc ce qu'il vous faut, c'est quelque chose qui soit facile à manier et un accès aux freins tout de suite. Maintenant, parmi les désavantages, parce qu'il y en a, c'est la taille de la bête, hein. Il faut déjà avoir l'espace pour le stocker parce que ça fait un vélo et demi de longueur.
Ouais.
Et puis c'est aussi difficile à transporter.
En train, c'est mort, quoi.
En train en Suisse, en plus, c'est devenu, ça a même été maintenant interdit. Les vélos spéciaux sont plus tolérés. Donc il y avait avant possibilité, maintenant c'est plus possible. Vous pouvez toujours essayer, mais ça sera à vos risques et périls. Si vous vous retrouvez au milieu de votre trajet débarqué, c'est pas forcément le but et pas forcément atteint. Nous, on a de la chance, on avait une voiture, quoi. On a une voiture qui permet de le stocker à l'intérieur en enlevant les deux roues. Alors, c'est quand même une aventure parce qu'enlever les deux roues, il faut mettre le vélo à l'envers, il faut mettre le dérailleur entre le passager et le conducteur. Bref,
Ouais. Un joyeux
c'est
bordel.
un joyeux bordel, mais par contre, on a pu aller où on voulait. Donc, on a pu faire des jolis tours. On a notamment fait le tour du lac de Constance, on a même fait des cols. Et puis, c'est là où je peux vous confirmer que les freins, ils sont importants parce que. On a essayé de palper le disque de frein au milieu d'une descente. Je vous promets que vous pouviez faire cuire vos saucisses dessus.
Belle image.
Voilà. Maintenant, alors, les tandems, où est-ce qu'on en trouve? Ben, je peux vous dire que c'est pas simple parce que autant avant, il y avait deux constructeurs. On peut citer des marques,
Oui,
Eric.
on peut.
Il y avait deux constructeurs qui en avaient dans leur assortiment. C'était Cannondale et puis une marque française qui
Ouais.
est Lapierre. Et là, j'ai regardé, les deux ont cessé de les produire. Je crois que ça fait quasiment 3 ou 4 ans qu'ils ne sont plus proposés. Donc, comment on fait quand c'est comme ça? Alors, on trouve. Par contre, ça va demander peut-être de regarder avec votre vélociste pour que lui le commande pour vous, qu'il finisse de le monter. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez
C'est nickel, quoi.
vous avez quelque chose qui vous donne toute la sécurité nécessaire. Alors moi, j'ai vu deux marques de sites internet. Il y en a un, c'est un site tchèque qui s'appelle Duratec. Et puis c'est écrit d'ailleurs Duratec.cz, il est en République tchèque. Alors, je vous dis tout de suite, il faudra écrire en anglais. Et au niveau des prix, vous trouverez forcément tous les prix, mais ce qu'il faut essayer de viser, c'est pas donné, c'est, je dirais, entre 3 200 et 3 800 €. C'est à peu près le prix que j'avais payé, même un peu en dessous, mais j'ai eu de la chance, je sais pas comment j'ai fait. Et puis autrement, j'ai trouvé un site à Bâle qui s'appelle Hilité. H-I-L-I-T-E. Et puis là, je vois qu'ils avaient un modèle à 3 200 €. Ils font aussi des modèles en titane qui sont autour des 4 500 €. Donc pour l'instant, j'ai que ces deux-là à vous proposer. Sinon, j'ai vu qu'il y a une marque qui s'appelle Moustache de vélo, mais eux, ils font que des tandems électriques. Alors, si vous cherchez un tandem électrique, ça, c'est produit en permanence. Mais sinon, ça va vous demander un peu de recherche. Et puis, tout dépend de votre pratique, mais vous trouverez souvent des tandems d'occasion qui sont un peu des vélos de ville avec des freins à gomme. Si c'est juste pour vous promener au plat, ça ira bien. Pour une pratique un peu sportive, je pense que c'est un peu limite, quoi.
Là, tu parles de vélo tandem où les deux conducteurs sont assis, c'est ça?
Oui, là je te parle d'un vélo tandem classique comme on l'imagine. On a notre autre chroniqueur Arnaud qui lui a un vélo tandem où le passager se trouve devant le conducteur et lui il est couché. Ça alors je pense que Arnaud nous donnera plus d'informations au sujet. C'est aussi un type de vélo très intéressant, notamment pour faire du vélo avec les enfants.
Ouais, et puis là ils sont encore fabriqués en série.
Oui, c'est la marque Hase, je crois, c'est H-A-S-E, sauf erreur. Et ça, oui, ils sont produits en permanence, donc seront beaucoup plus faciles à trouver.
D'ailleurs, je dois t'avouer que la première fois que j'ai essayé un tandem, donc c'était les deux pédaleurs étaient assis. Eh ben, j'ai dû faire 5 minutes et j'ai dit plus jamais de ma vie. Mais vraiment, j'avais pas du tout, j'ai essayé, impossible de tenir. Et puis quand Arnaud a acheté son vélo avec lui, il était debout et moi j'étais couché devant, tout de suite c'est parti. Tout de suite, en les deux premiers mètres, ça y est, t'es à l'aise. Alors je sais pas pourquoi, c'est l'équilibre comme ça. Je sais pas.
Parce que nous on a très vite eu une prise en main agréable avec ma femme. Forcément les moments peut-être délicats c'est quand on démarre hein, ou quand on doit s'arrêter. Mais franchement c'est devenu après ça devient instinctif. C'est ce que je dirais, c'est quelle que soit votre progression, elle sera rapide et vous aurez tout de suite du plaisir. Et vous vous rendez très vite compte lorsque vous êtes derrière si vous devez arrêter de pédaler ou pas parce que vous sentez la pression sur les pédales qui va augmenter ou baisser naturellement par rapport à votre partenaire. Donc tout se fait sans avoir forcément besoin de parler pour comprendre ce qu'on va faire. Au début, on va peut-être dire « attention, je vais freiner », comme ça l'autre va peut-être se préparer à poser le pied par terre, mais tout se fait après de manière instinctive, comme lorsqu'on fait du vélo tout seul.
Eh bien, on a parlé vélo tandem, et bien maintenant, on va parler vélo cargo avec Clément, qui a mis en point un site web pour qu'on puisse se renseigner un peu mieux sur le vélo cargo.
Salut Clément, comment ça va?
Salut Eric, ma foi ça va très bien, je te remercie.
Eh bah tant mieux. Alors Clément, toi ton truc c'est le vélo cargo et tu animes le site vélocargo.org. Pourquoi cet amour immodéré pour le vélo cargo?
Ça remonte à l'époque où j'étais étudiant. En fait, il se trouve qu'à côté de mes études, au lieu d'aller à McDo le week-end pour me faire un peu d'argent, je vendais des vélos d'occasion. Ouais. À savoir que je les achetais sur le bon coin et par-dessus, je faisais pas grand-chose en fait parce que j'étais pas très bon en mécanique. Mais il se trouve que j'arrivais à avoir des bons prix et me faire une petite marge en les revendant. Ouais. Et puis en fait, j'habite un quartier assez familial sur Bordeaux et il se trouve qu'il y avait pas mal de vélos cargo. Alors en force d'en voir dans les rues, je me suis dit mais pourquoi pas tenter. De là, j'ai commencé à faire des recherches sur le bon coin. Et je me suis retrouvé un petit peu dans une espèce de foire. C'est à savoir, pour commencer, que sur le bon coin, je m'explique, il n'y a pas la catégorie vélo cargo.
Catégorie vélo, sur le bon coin, c'est considéré comme un loisir ou sport, mais pas transport, quoi.
Voilà, bon, déjà, ça montre un peu l'importance des choses pour le vélo. Et donc, il n'y a pas le vélo cargo, on a bien VTT, VTC à la rigueur, mais pas ce type de vélo. Donc, j'ai commencé à mettre des mots-clés, du coup, pour essayer d'y voir plus clair. Et puis même là, en mettant les mots-clés, je voyais plein de biporteurs différents, des triporteurs, pourquoi trois roues, pourquoi deux roues. Et pareil, il y avait d'autres questions qui me venaient. Combien d'enfants je peux mettre dans la caisse? Quelle motorisation est nécessaire? Enfin, j'avais plein de questions qui me venaient. Et en cherchant sur le net, c'était très dispersé, toutes ces infos. Du coup, le choix était vachement difficile. Dès lors, je me suis dit, mais pourquoi pas créer une plateforme comme ça, d'occasion, avec notamment des filtres pour y voir plus clair selon ce qu'on cherche, et aussi des articles pour être aiguillé.
Vélocargo.org. Qu'est-ce qu'on trouve encore d'autre sur le site? Donc tu mets des articles pour parler des nouveautés. Si moi je m'intéresse au vélo cargo, je veux en acheter un, mais j'ai pas trop d'idées de ce que je veux. Comment j'arrive à m'orienter sur le site?
Le site, il est assez récent, il a 6 mois, mais il se trouve que bientôt, il y aura davantage de filtres de possibles. C'est-à-dire là, actuellement, bon, c'est assez limité. On va avoir quoi? On va avoir les différents types de vélos cargo, à savoir biporteur, longtail, triporteur. Et après, la région où on est, et éventuellement, taper un mot-clé si on connaît la marque qu'on souhaite. Combien d'enfants on peut mettre dans la caisse? Quelle est la longueur totale du vélo si on veut le transporter sur son porte-vélo, combien d'enfants on peut mettre, etc. Donc là, actuellement, il faut juste savoir quel type de vélo on veut. Et à côté de ça, il y a pas mal d'astuces que je donne dans les articles pour encore plus s'y retrouver.
Tu parles beaucoup pour les vélos cargo de transport d'enfants. Hier, la semaine dernière, on a reçu Philippe des boîtes à vélo. Et lui, ce qui l'intéressait, c'était surtout le vélo cargo comme outil de travail. Quel conseil tu donnerais, quel conseil tu fournis sur le site pour ça?
Pour le moment, je m'oriente plus sur un public familial. Il est vrai que maintenant, il y a la cyclo-logistique, qu'on appelle ça, qui se développe de plus en plus. Je viendrai à terme à expliquer, peut-être à répertorier tous les types de caisses, les caisses un peu utilitaires qu'on peut mettre à l'avant de son vélo, par exemple. Les caisses en alu, les caisses en bois, éventuellement les fabricants qui proposent des tiroirs, ce genre de choses. La charge max que ça peut prendre, le volume utile, enfin voilà, je vais essayer de centraliser un petit peu tout ça et d'éclaircir les choses. Il faut savoir que lorsque je donne des plus ou moins conseils, c'est pas nécessairement de moi que ça vient, mais beaucoup de la communauté. Donc je m'appuie beaucoup sur les retours Facebook. Il se trouve que c'est une toute petite communauté et tout se partage sur Facebook, les astuces, les retours pratiques. Donc voilà comment j'étaye mes articles, mais pour la cyclo-logistique, c'est clair que je vais bientôt m'y pencher davantage.
Et puis c'est une petite communauté, mais qui est en train de grandir à vitesse grand V avec l'explosion de la vente des vélos cargo l'année dernière. 11 000 vélos, c'est un truc de fou, hein.
Ouais, c'est clair, quasiment doublé presque par 4, 3,5. Là, on est qu'au balbutiement, je dirais, de ces engins.
Je crois qu'en France, c'est 11 000 vélos qui ont été vendus. Dans le même temps, en Allemagne, c'est plus de 50 000. On a une marge de progression, là.
Ouais, c'est ça. Les chiffres chez nos voisins, ils sont encore un peu plus ahurissants.
Il y a quoi comme différents types de vélos cargo?
On distingue les vélos cargo à 2 roues ou à 3 roues. Donc pour les 3 roues, ça va être, on les appelle communément les triporteurs. Donc 2 roues à l'avant et 1 roue à l'arrière. Et vous l'avez deviné, l'autre c'est 2 roues, donc biporteur. Ce qui les distingue certainement en priorité, ça va être la stabilité. Un triporteur va être beaucoup plus stable avec une charge à l'avant importante, notamment des enfants qui gigotent, etc. Pour quelqu'un qui débute un peu dans le vélo cargo, ça va être pas mal, ou qui débute dans le vélo tout court. Parce qu'il n'aura pas beaucoup de questions à se poser quand il va aller à droite à gauche. Néanmoins, là où le biporteur va prendre l'avantage, ça va être dans tout ce qui est pour se faufiler. On va être beaucoup moins contraint dans les angles, les virages assez... Dès lors qu'il y a des manœuvres, le biporteur va être beaucoup plus facile. Je dirais quelqu'un qui roule doucement et qui prend son temps, voilà, il peut aller sur le triporteur. Et le biporteur, pour quelqu'un qui l'utilise quotidiennement tous les jours, il va être beaucoup plus adapté. La dernière famille, ça va être les long tails. Là, ça va être un porte-bagages arrière qui est rallongé, principalement. On peut mettre quand même sur un long tail jusqu'à 3 enfants, selon certains modèles. C'est vraiment pas mal. J'ai même vu des mamans qui s'asseyaient avec leur enfant devant, à l'arrière du vélo. Donc voilà, ça va être la charge va être uniquement à l'arrière.
Si vous voulez en savoir plus sur le vélo cargo, vous voulez des infos, eh ben c'est tout simple, vous allez sur le site de Clément, vélocargo.org. Alors vélo cargo, c'est en un seul mot, il n'y a pas de S. Eh ben merci beaucoup Clément.
Et de rien, avec plaisir, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours pour améliorer tout ça.
Ciao.
Eh ben, il était temps qu'il y ait un site sur les vélos cargo qui recense tout ça. C'est une belle initiative de Clément. C'est vrai que je suis allé faire un tour sur le site. Le jour où tu as envie, cycle-enthousiaste, de t'acheter un...
Mais
un
j'en vélo. Ai déjà un.
T'as déjà... Oui, c'est vrai, oui.
Oui, oui.
Toi, c'est un triporteur, toi.
Non, c'est un biporteur. Alors, j'allais te dire, tu prêches à un convaincu parce que je ne peux que vous encourager à en acheter un. Si vous en avez besoin pour faire vos courses, transporter vos enfants, c'est beaucoup de fun. Vos enfants, ils sont devant, ils voient bien ce qui se passe. Vous pouvez les protéger de la pluie. Franchement, c'est fantastique.
Il est électrique, ouais. Le tien?
Non, parce que je n'en ai pas besoin, sachant que je me déplace surtout à plat, là où j'habite. Et ouais. C'est plutôt un vélo pour graviter autour de mon logement.
J'ai cru que tu allais dire, j'ai pas besoin, je suis suffisamment baraqué, c'est bon.
Non, mais pour venir chez toi, je pense que je peux le faire, mais ça devient un peu fatigant.
Ouais, moi, j'y arrive à venir chez moi parce que moi, je suis baraqué.
Ouais, là, on voit, t'as vu les cuissons que tu as.
Alors, on est en train de dire des bêtises, mais le vélo, c'est un peu sérieux quand on s'y penche. C'est pas si simple que ça que d'apprendre à faire du vélo, et nos gamins, ils sont plutôt impressionnants finalement.
Alors, je vais vous parler d'une vidéo que j'ai découvert sur YouTube. C'est une vidéo qui date de 2015. Backward Brain Bicycle. Le vélo à cerveau inversé. Alors, de quoi je parle? C'est une vidéo qui vient de la chaîne Smarter Every Day, plus intelligent chaque jour. Elle traite de sujets scientifiques qui sont vulgarisés. Et puis son animateur, Dustin Sandlin, qui a 40 ans, a fait une expérience intéressante. Il a des amis qui lui ont préparé un vélo qu'ils ont modifié eux-mêmes, où lorsque tu tournes le guidon à gauche, la roue avant, elle va à droite. Et ses amis lui ont proposé d'essayer dans l'atelier, et il a été incapable de faire un mètre sans poser le pied par terre. Alors vous vous direz, est-ce que Destin a simplement peu de coordination? Est-ce qu'il est mauvais? Il est ingénieur hein, à la base, peut-être qu'il est trop resté dans ses papiers. Eh bien non, parce que Destin, il a pris le vélo à l'âge de 6 ans, et puis sur la vidéo, il nous montre qu'il est même capable de jongler. Donc on peut dire qu'il a une coordination même bien avancée. Alors voilà, pour lui, c'était un défi. Pendant 8 mois... Quoi, c'est le temps que ça lui a pris. Ça lui a pris 8 mois à raison de 5 minutes par jour pour arriver à maîtriser ce vélo. En fait, c'est comme s'il devait réapprendre à faire du vélo.
8 mois, 5 minutes par jour, ouais.
Donc, c'est dire à quel point ça demande d'oublier les automatismes qu'on avait. Et là, il s'est dit, mais tiens, j'ai mon fils qui a 6 ans. Si je lui prépare un vélo avec le même mécanisme, combien de temps ça va lui prendre pour arriver à pédaler sans poser le pied par terre? Alors Eric, je te pose la question, combien de temps?
Alors écoute, ma fille, elle s'est mise à faire du vélo il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais surpris que ça soit si rapide. Mais alors, est-ce que c'était instinctif de tourner comme on tourne le vélo normalement? Ou est-ce qu'elle a dû, elle, quelque part, tout réapprendre ses automatismes?
Allez, vas-y, donne-moi un chiffre.
Je vais te dire, j'ai envie de croire que le gamin, il a réussi, ça faisait 3 ans qu'il avait pris des automatismes quand même, peut-être. Ben, on va dire qu'il a réussi en 2-3 jours.
Non, quand même pas, 2 semaines.
2 semaines.
Mais 2 semaines comparées à 8 mois, ça montre. Ah ouais. Alors, ce que lui dit, c'est la plasticité du cerveau des enfants.
Plasticité neuronale.
Sont beaucoup plus rapide pour apprendre les langues, on le sait, hein, apprendre jeune, que nous. Alors... Je continue un petit peu. Destin lui fait des conférences dans le monde pour promouvoir sa chaîne, et je vous confirme que chaque fois qu'il a mis son public au défi d'essayer ce vélo, personne n'y est arrivé. Un autre aspect sur la suite de son aventure, c'est que Destin avait parfait du vélo normal depuis qu'il s'était mis à faire du vélo inversé. Et lors d'un de ses voyages en Europe, à Amsterdam, il a donné rendez-vous à ses followers pour organiser un test de vélo normal, alors qu'il a l'habitude de faire du vélo inversé. Eh bien, figurez-vous que ça lui a pris 20 minutes pour arriver à refaire du vélo normal.
C'est incroyable.
Les gens le regardaient, mais à se dire, mais il fait exprès, c'est pas vrai, c'est pas crédible qu'il sait pas faire du vélo.
Allez, arrête de faire l'imbécile.
Voilà, exactement. Donc, 20 minutes pour s'y remettre, puis après, d'un coup, clac, ça revient comme si ça avait été enfoui au fond de votre mémoire. Donc, qu'est-ce qu'on peut retirer de cette petite vidéo très informative et vraiment intéressante à regarder, même si elle est en anglais, simplement de voir à quel point on devient très hésitant à utiliser un vélo inversé. Alors, c'est que finalement, le vélo, c'est pas simple à apprendre. Hein. C'est beaucoup de coordination avec tous nos membres, et lorsque vos petits apprennent et puis qu'ils n'y arrivent pas tout de suite, même s'ils y arrivent plus vite que nous, eh ben, il faut être tolérant, parce que nous, lorsqu'on doit se remettre dans la même situation qu'eux, eh ben, on prend beaucoup plus de temps. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'autant apprendre à faire ces choses-là jeune, parce que vous aurez une mémoire musculaire qui vous mettra plus en confiance quand vous serez inséré dans le trafic, et vous aurez les bons réflexes. Je vois mon épouse qui, elle, a fait beaucoup moins de vélo que moi. Elle n'a pas cette même aisance, c'est pas le même plaisir. Donc, apprendre le vélo petit, c'est investir dans l'avenir pour avoir du plaisir lorsque vous serez sur les routes de nos campagnes.
Avec Arnaud, on a aussi essayé un vélo inversé. Donc, tu tournes à gauche, la roue tourne à droite, tu tournes à droite, la roue tourne à gauche. Et ben, impossible. Même, alors, le but, c'était juste, à la limite, de prendre de l'élan.
Ouais, même tout droit, on n'y arrive pas.
Ah, hein. Oui, tu n'y arrives pas. Même, tu pousses avec tes pieds. Non, en fait, on se rend pas compte tellement c'est ancré les automatismes de tourner à gauche.
Il y a beaucoup de finesse, qu'on fait des ajustements permanents.
On se rend pas compte.
Et
ouais.
C'est lorsqu'on est mis au défi qu'on réalise à quel point on est devenu à ce point-là des acrobates.
On va maintenant parler de la démocratie suisse, parce qu'il se trouve qu'avec Cycle Enthousiaste, avec Arnaud, tous les trois on est en train de vivre un truc incroyable. On est en train de déclencher ce qu'on appelle en Suisse une initiative. C'est-à-dire qu'on demande aux gens s'ils souhaitent qu'on fasse un référendum, une votation, on appelle ça en Suisse, pour un projet. Et le projet, c'est que dans notre petite ville, il y a une route qui longe le bord du lac, qui est coincée entre des maisons et un parc. Et cette route-là, en fait, cette rue-là, eh ben, c'est un parking, parce que cette rue-là, elle est facilement déviable. Elle est régulièrement fermée dans l'année pour des événements. Cet été, ça a été fermé pour que les gens puissent sortir par rapport au coronavirus. Il n'y a rien de plus facile que de fermer cette rue juste en mettant des petites barrières sur des rues qui rentrent. Et elle est facilement déviable parce qu'il y a une route qui est totalement parallèle à cette rue-là. Et nous, on s'est dit, on va faire du concret pour l'environnement, faire du concret pour le vélo. On enlève les places de parking, on enlève cette rue-là, on enlève toutes les voitures et on la rend à la mobilité douce, aux piétons. On va pouvoir remettre de la verdure, des arbres. Comment ça se passe en Suisse ? Eh bien, en Suisse, on fait une initiative. Et là, c'est une initiative communale, c'est-à-dire c'est sur la commune. Morges, c'est une commune qui fait 18 000 habitants.
Morges, c'est 16 000, je crois. 16 000. Et puis, le nombre de gens qui sont habilités à voter, parce que c'est important pour cette chronique, c'est à peu près 10 500, pour donc dire quelque chose. Et il faut récolter 1 500 signatures, on va dire 15% du corps électoral, pour pouvoir ensuite soumettre l'objet à la votation du peuple.
Donc, en gros, si on a 3 mois pour que les gens disent... Oui, on voudrait qu'on puisse voter là-dessus. Et si on récolte suffisamment de signatures, là, on passera dans un truc officiel.
Une votation populaire.
Une votation, voilà. Là, ce ne sera pas juste... c'est comme une pétition, finalement, ce qu'on entend.
Oui, exactement.
Sauf que c'est quelque chose de plus légal, de plus ancré dans la culture démocratique.
Démocratie directe, comme on dit en Suisse. Ouais.
Et du coup, ce qui est formidable avec ça... Et là, on peut faire le parallèle avec les gilets jaunes, c'est qu'en Suisse, il ne peut pas y avoir de gilets jaunes. Parce que là, c'est le peuple qui vote ses lois. Et ça, c'est incroyable. C'est un élément de... comment dire ?
De cohésion ?
De cohésion sociale. C'est-à-dire que, si tu veux quelque chose, tu fais en sorte que les gens votent pour. Si les gens ne votent pas pour, ça veut dire que tu n'as pas la démocratie avec toi, tu n'as pas l'ensemble de tes concitoyens. Donc, tu laisses faire la démocratie. Voilà, c'est comme ça. Et puis, par contre, les politiques, ils ont moins de pouvoir, ils ont un contre-pouvoir parce que ce n'est pas eux qui font la loi. Donc, on va vous tenir au courant parce que ce week-end, on va commencer à récolter les signatures dans la rue. Et il faut qu'on arrive à atteindre, au bout de 3 mois, les 1500. On dit qu'il faut un petit peu plus, les 1500 signatures. Et donc, ça, c'est les gens qui ont le droit de voter dans notre ville. Alors, j'espère que dans notre commune, on va réussir à récolter ces signatures. Et ensuite, grâce à la démocratie, au choix de tous, à faire fermer cette rue et à la rendre plus verte, plus belle, vraiment à pouvoir respecter les lois sur le climat, parce qu'on va chasser la voiture.
Oui, et puis il faut se dire, actuellement, c'est 155 places de parc, c'est le parking le plus beau de Suisse. Vous avez la vue sur le Mont Blanc.
Vue sur le lac, imprenable.
Est-ce que vraiment c'est utile de mettre des véhicules à cet endroit? Moi, je pense que non, il y a d'autres capacités d'accueil dans la ville si vraiment il faut garder les places de parc, mais pas à cet endroit.
Alors, en fait, ça va être une petite aventure et on va vous tenir au courant au fur et à mesure des épisodes combien de signatures on a réussi à récolter. On doit vous avouer que quand on aura terminé l'enregistrement avec Cycle Enthousiaste, on va aller voir le journal parce que ça commence à communiquer dessus, on va se faire prendre en photo. On va vous tenir au courant de cette aventure et on espère pouvoir vous dire en septembre, c'est bon, on a eu les 1500 signature, on va pouvoir déclencher une votation, un référendum. Voilà.
Après, c'est toute la population qui vote et on n'est pas encore certain d'avoir la majorité, mais au moins on a essayé.
Et ce qu'on peut déjà vous dire, c'est que, alors c'est de la politique, mais c'est comme ça, les partis de droite, ils sont vraiment pas pour, et ils ont dit à l'association des commerçants, qui ont très peur de perdre leurs 150 places de parking, que ça n'allait pas se passer comme ça. Sauf que bah, on a des études qui prouvent que peut-être les commerçants souhaitent des places de parking, mais leurs clients, c'est pas ça qu'ils souhaitent. C'est vraiment une étude statistique. Les clients, eux, ils veulent des zones calmes, des zones apaisées. Donc, c'est ce qu'on va apporter et on va essayer de mettre les commerçants dans notre poche. On va faire tout un petit habillage, toute une communication sur ça. Ça va passer, c'est pas possible.
Et de toute façon, à mon avis, ça conduirait au minimum à des aménagements, à des améliorations par rapport à la situation actuelle. Donc, pour moi, on a déjà fait une partie du chemin et en effet, ce qu'on cherche, c'est vraiment de bannir la circulation sur cet axe qui doit être réservé à la mobilité douce, aux gens qui veulent pique-niquer, qui veulent avoir du calme et une belle vue sur le Mont Blanc.
Alors notre initiative s'appelle Libre sur les quais et on va gagner les copains. Allez, on va se quitter là-dessus, on est plein d'énergie, plein d'enthousiasme. Et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité,
faites du vélo !